Ondes Noires, deuxième partie. Je laisse la parole à Corinne.
Et comme je l'avais annoncé dans le sommaire, nous avons le grand plaisir de retrouver Jean-Christophe Tixier. Jean-Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de vous être libéré, parce que vous étiez devant des lecteurs dans, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes libéré pour parler avec nous de ce très, très beau roman qui vient de sortir, qui s'appelle Les Mal-Aimés. Il est sorti, je crois, le 27 février, c'est ça ?
Absolument, la semaine dernière, tout à fait.
C'est aux éditions Albin Michel. Et si je ne me trompe, c'est votre premier roman pour adultes.
Alors, merci de préciser pour adultes.
Non, non, mais bien sûr, attendez, je vais faire une toute petite biographie, toute petite, mais voilà, premier roman pour adultes, mais je ne suis pas sûre, en fait, parce que j'étais cherchée que du côté du noir, en fait.
Non, il y a eu des choses, mais qui sont anciennes et qu'on ne trouve plus, donc on va dire que c'est le premier roman adulte, tout à fait.
Voilà, et par contre, ce que j'allais dire, c'est qu'on vous connaît bien pour vos romans pour les plus jeunes, comme la série, c'est moi qui appelle la série des 10 minutes, qui est à la collection Souris Noire de Cyrose.
10 minutes, qui est une petite série pour les 10-12, qui est une série policière à suspense.
Voilà, 10 minutes sur le vif, c'est le dernier, me semble-t-il.
Alors, le quatrième est effectivement 10 minutes sur le vif, qui est sorti en janvier dernier.
Voilà. Et puis, il y a des romans pour les plus grands, les grands ados, les jeunes adultes, et moi, je dirais même pour les adultes tout court, parce que c'est très intéressant, qui sont sortis chez Rajo Éditeur, comme, alors, je vais citer deux parmi les derniers, je crois, Un dossard pour l'enfer et Quand vient la vague.
Alors, deux romans très différents. Un dossard pour l'enfer, c'est un roman à suspense, qui se passe dans le milieu du sport et dans le cadre d'un ultra-trail. Donc on est en montagne dans ces courses de l'extrême qui font 130 km, 12 000 mètres de dénivelé positif. Il va se passer toute une série de choses. Alors que Quand vient la vague, c'est un roman assez différent, plein de suspense aussi, mais avec... alors que je n'ai pas écrit seul, j'ai écrit avec Manon Fargeton, on a été deux. Et c'est une histoire qui traite de la disparition volontaire, du secret de famille. Et voilà, on va planter tout un décor familial, tout un drame familial, vu par deux voix, d'un jeune qui fait le choix de disparaître et de son frère qui, quelques temps après, va tenter de comprendre qu'il est advenu de sa sœur.
Donc on commence à apercevoir un petit peu votre univers, et je terminerai donc ce très 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 court tour d'horizon en expliquant que vous fûtes à l'origine du très très beau festival Un aller-retour dans le noir, qui se déroule début octobre, c'est toujours le premier week-end d'octobre, à Pau.
Absolument.
Un petit peu éloigné, mais vous jetez toujours un regard très attentif et très bienveillant sur ce festival.
Merci.
Voilà, donc
salon qu'on est en train de préparer la 11e édition. Là.
Voilà, et la première question qui est certes un petit peu naïve, c'est comment est-ce qu'on a la même façon d'aborder un roman quand on sait qu'on va pas vraiment avoir le même public, le même âge de public en quelque sorte, c'est-à-dire que comment on aborde un roman pour, enfin, est-ce que c'est le même type d'écriture quand on prend un roman pour adulte ou pour enfant?
Je crois que moi j'ai écrit pour la jeunesse sur différentes tranches d'âge, puisqu'il y a des choses que vous avez rappelées, sur des romans pour les jeunes ados. Je crée aussi pour les enfants, parce que j'ai des séries et des choses pour les 6-8 ans, et donc pour les grands ados. Donc déjà, il n'y a pas de différence en matière de thématique. Aujourd'hui, en matière de littérature jeunesse, sauf effectivement peut-être pour les plus jeunes, mais dès qu'on parle d'ados, on peut aborder tous les sujets. Et c'est ça qui est intéressant en matière de littérature jeunesse. On peut aborder tous les sujets. La seule différence qu'il peut y avoir peut-être avec la littérature adulte, c'est peut-être le choix d'un vocabulaire. C'est encore plus vrai quand on est avec les plus jeunes. C'est aussi un rythme d'écriture. On va être un petit peu moins... Enfin, on va être dans une écriture qui est un tout petit peu plus rythmée pour la jeunesse. Ensuite, la différence... ça va être aussi les centres d'intérêt, les thématiques qui vont être, enfin pas les thématiques, mais en tout cas les enjeux qu'il va y avoir à l'intérieur d'un roman. On imagine mal, par exemple, un ado s'intéresser au problème de la crise de la cinquantaine ou ce genre de choses-là. Donc le lecteur va en général, ado, va rechercher des histoires dans lesquelles les personnages principaux vont avoir son âge, ses préoccupations, ses interrogations, ou un petit peu plus âgé, mais ça va se situer là. Voilà. Dans un roman adulte, on va pouvoir effectivement aller beaucoup plus loin dans la description, beaucoup plus loin dans la noirceur aussi, beaucoup plus loin dans la noirceur, parce qu'en fait, quand on s'adresse aux jeunes, on peut pas faire un roman qui soit complètement désespéré non plus. On a, je crois, cette responsabilité vis-à-vis des jeunes de laisser quelques portes ouvertes et quelques lueurs au bout du tunnel.
Eh bien, ça me fait une très très bonne passation pour la prochaine question, puisqu'on va quand même parler des mal-aimés, qui, effectivement, vous laissez peu de lumière, vous laissez peu de portes ouvertes. Donc, dans ce roman, on revient au 19e siècle, vous nous emmenez dans les Cévennes, et il y a dans ce roman une évocation, alors j'ose pas dire une belle évocation, parce que le sujet est un sujet très dur. Et vous parlez beaucoup, et je parle d'évocation, on reviendra là-dessus dans votre narration, évocation des bagnes pour enfants à la fin du 19e siècle. Là, on est dans les Rouges, si je ne m'abuse, tout en haut.
Oui, absolument, oui.
Quel est l'itinéraire qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet, s'il vous plaît?
Alors moi, j'ai démarré, j'ai découvert tout cela. Parce qu'on parle de bagne pour enfants, c'est la population qui parle de bagne pour enfants, hein. L'administration parle plutôt de maison de redressement ou de maison d'éducation surveillée. Et j'ai découvert ça, moi, au travers du poème de Jacques Prévert, qui s'appelle La chasse à l'enfant, qu'il a écrit pour dénoncer ce qui s'est passé, dans lequel il évoque la mutinerie qu'il y a eu en août 1934 à Belle-Île-en-Mer, où il y avait un de ces bagnes-là. Et en me penchant un petit peu plus sur ces bagnes, j'ai découvert toute l'horreur vécue par ces enfants, des enfants parfois âgés de 8 ans qu'on enfermait dans ces institutions jusqu'à leur 18 ou 20 ans, au motif qu'ils étaient vagabonds, orphelins, mendiants. Certains n'étaient là que pour simplement avoir volé deux pommes ou un bout de pain. Et quand ils étaient dans ces bagnes, ils vivaient l'enfer. L'enfer du manque de soins, du manque de nourriture, de la violence des gardiens, de la pénibilité du travail, de la claustration, avec un taux de mortalité qui était assez élevé. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion-là qu'il y avait plus de 70 bagnes sur le territoire français.
70.
Le premier a été créé, on en a beaucoup parlé, c'est la colonie pénitentiaire de Mettré, à côté de Tours, qui a été immortalisé par Jean Genet dans son ouvrage « Le miracle de la rose ». Et tout ça, ça a duré jusqu'en 1945. Et je me suis penché plus particulièrement sur un de ces bagnes qui était à Vaillauquès, qui a fermé en 1884. Il y a eu plusieurs centaines de jeunes qui sont morts dans ce bagne de mauvais traitements et de manque de soins. Mais c'est pas un roman sur les bagnes, parce qu'en fait, ça démarre avec la fermeture de...
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je parlais d'évocation, parce qu'en fait, le premier chapitre, on commence le jour où ce centre ferme, en 1884, et on a une image terrible. On sait déjà qu'on est dans un roman du plus pur noir, parce qu'il y a cette cohorte des enfants décharnés qui sort du camp, avec des témoins qui sont les villageois pas loin, et qui sortent du camp, mais moi j'ai eu l'image d'Auschwitz, d'un camp de concentration.
Ben, on n'en est pas loin, parce que tous les témoignages montrent qu'ils étaient au moins dans ce bagne, mais dans beaucoup de ces bagnes-là, à peine nourris. C'était souvent une soupe qui était de l'eau claire, donc il y avait des carences alimentaires qui étaient énormes chez ces jeunes, des retards de croissance qui étaient extrêmement importants. Donc si on rajoute au fait qu'ils avaient tous les cheveux rasés par rapport à la notion de parasite, et puis qu'ils étaient tous vêtus d'une vareuse grise, effectivement, ça évoque... les pires images que l'on a en tête.
De déportation. Après cette image terrible, on se retrouve 17 ans plus tard, dans le village, ou aux alentours du village, parce que les fermes sont très isolées dans ce coin très perdu des Cévennes, et il commence à arriver à quelques villageois des phénomènes assez étranges. Je vous laisse nous raconter un petit peu le début, pour pas raconter toute l'histoire, mais juste un petit peu ce qui se passe dans ce village et qui va enfler.
Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de cette communauté rurale qui a été partie prenante de ce bagne, parce qu'en fait, les personnes qui travaillaient dans ces bagnes, c'était les habitants, c'était eux qui étaient les gardiens, c'est là qu'était retraitée la lingère, la cantinière, donc la population locale était très très impliquée. Et donc on se trouve en 1901, et là, certains voient entendre des sons dans ce qui a été le cimetière dans lequel on a enterré tous ces jeunes. D'autres entendent des bruits et puis des bêtes qui paissent là-bas tombent malades. Il y a quelques morts étranges et il y a tout de suite une rumeur qui se met à enfler disant ce sont les enfants du bagne qui reviennent, les enfants morts et qui reviennent se venger. Et là, forcément, il va se passer plein de choses.
Et là, les secrets, les histoires, les secrets qui lient et qui délient les gens vont petit à petit sourdre de la terre, parce que la terre et les hommes là-bas, c'est très très important. Vous décrivez souvent dans ce roman les êtres humains comme des minéraux presque, comme étant sortis de la terre, comme des espèces de golems. Et là, vous nous décrivez... certes, il y a en fond ce bagne qui est fermé depuis 17 ans, mais c'est aussi l'enfer dans la vie du village. Il y a Jeanne, une des femmes, la femme de Léon, qui dit ben, on vit au jour le jour et aujourd'hui on est content si c'est pas pire demain.
Mais parce que la vie paysanne au début du 20e est une vie qui est extrêmement rude. Une vie de soumission à la terre, une vie de soumission aux éléments, une vie de peu, et ce sont des conditions de vie qui sont effectivement vraiment terribles.
Il y a donc Léon, il y a Alphonse, Ernest. Alors ces conditions terribles, vous dites, il y a une très belle phrase, « Cette terre de rien qui n'a que le malheur pour se satisfaire, la misère et aussi les cadavres ». Alors les cadavres, il va y en avoir pas mal d'entre les différents villageois qui vont sortir de la terre et de la tête aussi de pas mal des villageois. Il y a ces personnages, ces hommes qui ont aidé les gens à l'incarcération, j'allais dire à la concentration, mais c'est un petit peu ça. Et petit à petit, on va découvrir leur caractère et vous nous les décrivez d'une manière très dure. Mais il y a aussi beaucoup de tendresse, malgré tout, malgré cette dureté, malgré leurs méfaits, malgré leurs méfaits.
Oui, alors il faut replacer ça aussi dans un contexte de l'époque, hein, qui est celui de l'incarcération de ses enfants. On est dans un contexte où tout ça prend racine dans le code pénal de 1810, où on a en fait inventé le concept de discernement. C'est-à-dire que pour la justice des mineurs, bon, pour tout adulte coupable était condamné, et parmi les mineurs, on faisait la distinction entre les discernants, ceux qui avaient tous leurs moyens de jugement et toute leur maturité. Ceux-là étaient condamnés pour le méfait commis, mais à une peine inférieure à celle des adultes. Et ceux qui avaient, dont on disait qu'ils avaient agi sans discernement, le juge avait la possibilité soit de les renvoyer aux familles, soit de les mettre dans une de ces institutions. Et ces jeunes-là qui étaient acquittés, alors que les autres auraient pris quelques mois pour un vol de pain, eux étaient placés pour jusqu'à leur majorité, 18 ou 20 ans. Et ce qui était une belle idée au départ, puisque ça a été mis en place par des magistrats philanthropes qui voulaient, par ce retour à la nature, sortir les gamins de l'enfer des villes et aller dans le sens de l'élévation des âmes. On était épuisé beaucoup d'idées chez Rousseau à l'époque. Tout ça a basculé à partir des années 60 quand on a vu les positivistes arriver qui, du concept d'innocent coupable au départ, on est arrivé à celui de l'enfant criminel qu'il fallait retirer, isoler, redresser, maltraiter. Donc, en fait, la population partage. C'est de la mauvaise graine. C'est de la mauvaise graine qui risque de contaminer les autres. Et il faut les isoler. Et s'ils ne changent pas, c'est qu'on n'est pas assez dur avec eux. Donc, étant dans ce contexte-là, la population qui participe à ça, elle a aussi intégré toutes ces données. Donc, oui, ils sont très durs. Oui, ils sont violents. Oui, ils sont... Ils donnent la nausée
Il y a une certaine sauvagerie. Ernest, Léon...
Ils sont aussi des êtres humains avec toute leur faille. Et ils sont aussi dans un contexte qui est celui de l'époque.
Et qui est un contexte de vie très dur. Alors, vous les sauvez à peu près tous, enfin, quelque part. C'est des hommes de chair et d'os. Et quelque part, cette vie dure permet d'éviter un jugement trop lourd. Par contre, ceux que vous ne sauvez pas, c'est les curés, qui étaient quand même à l'origine Vous avez parlé de la loi et du contexte qui était quand même à l'origine de beaucoup de sévices. Je lis un tout petit extrait. C'est le curé qui parle à un des personnages, Jeanne, qui a été se confesser. Et le curé réagit quand elle peut dire que peut-être on était un peu dur. Et lui répond, quand un jeune laisse entrevoir une ardeur martiale, montre un caractère dur ou cruel, est porté aux querelles et au carnage, ou que ses mœurs sont déplorables, il faut lui mettre un frein énergique. C'est Saint Léonard qui nous l'enseigne. Notre rôle était de les rendre vertueux. De tout le reste, advienne que pourra, pourvu que leurs âmes soient sauvées. À coups de triques, en les affamant et en les assassinant.
Oui, alors c'était... Alors effectivement, dans tous ces bagnes, il y avait très peu été public. Hein. C'était sur les 70 bagnes, il y a eu à peu près une dizaine de bagnes qui étaient tenues par l'État. Tous les autres étaient des bagnes privées qui étaient tenues soit par des riches propriétaires terriens, ce qui était le cas de ces bagnes que j'évoque, soit par des congrégations religieuses qui possédaient les terres et donc qui prenaient en charge ces jeunes pour les redresser. Le traitement n'a pas été plus dur dans les bagnes tenues par les congrégations que dans les bagnes tenues par de riches propriétaires terriens. Et puis il faut remettre aussi ça dans le contexte de l'époque. On est dans la période avant l'arrivée de la loi de 1905, et c'est vrai qu'on a un très très fort affrontement entre républicains et catholique. Et on est à une période où là, justement, le prêtre, il dit, ben voilà, il y a un village qui est en train de basculer, peut-être qu'il y a moyen de reprendre la main sur cette population et de remettre un petit peu l'église au centre. Mais on est déjà dans la période où Aristide Briand est déjà en train de porter la loi qui arrivera en 1905.
Le curé va pas vraiment réussir. Alors, il nous reste peu de temps et on ne peut pas passer sous silence le magnifique personnage de Blanche. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Blanche, que vous nous la présentiez. Il y a son oncle Ernest qui lui fait beaucoup d'ombre, si je puis dire.
Alors, c'est un petit peu la colonne vertébrale de ce roman. Blanche est une jeune fille qui a été éduquée par son oncle suite au décès de ses parents et elle ne découvre la vie qu'au travers de cette ferme et de cet oncle qui l'isole complètement de tout le reste. Elle ne se rend pas forcément compte de tout le mal qu'elle peut subir.
Son nom Blanche, d'ailleurs, n'est pas anodin.
Pour pas dévoiler trop
voilà, trop exactement.
Elle est l'innocence, mais en même temps, elle est capable d'avoir un certain recul sur tout ce qui se passe, puisqu'elle est capable aussi d'apporter une appréciation sur son oncle. C'est peut-être elle qui va effectivement porter un petit peu de lumière dans ce roman qui, effectivement, est très, très noir.
Oui, et son itinéraire aussi va apporter un petit peu de lumière. Et on a juste 30 secondes pour évoquer, pour moi, il y a des personnages très fins dans les tons de gris. Et il y a l'autre personnage, il y a Blanche d'un côté, et puis il y a l'autre femme, il y a Jeanne aussi, mais il y a la Cruère, qui elle, la Cruère, le nom n'est pas bénin, ça rime avec mégère.
Oui, elle a fait commerce ou en tout cas profession d'élever les gamins placés par l'assistance publique.
Et on sent bien que c'est juste une tractation commerciale.
Pas complètement.
Voilà.
On ne gagne pas et elle va essayer de gagner le maximum C'était malheureusement aussi des choses qui glissaient. Hein.
Oui, tout à fait. On va vous remercier, Jean-Christophe Tixier. On a essayé de ne pas raconter l'histoire parce qu'il faut absolument que nos auditeurs la découvrent. Un roman très, très noir et une histoire merveilleusement bien racontée avec en filigrane tous les noms de ces enfants qui sont morts dans ces centres d'éducation surveillés. Je suppose que vous avez été consulté les archives. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Des extraits d'archives, oui, tout à fait.
Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Chacun dans son coin avec un bon bouquin. Et à bientôt.
À bientôt.